Qui croit que Jésus est là au milieu de nous? Je le crois. Et quand on dit quand le roi fasse son entrée, c'est juste ce que lui, il veut. Il veut être avec nous tout le temps. C'est une question de... C'est une question d'un père et de son fils. C'est une question d'un Dieu et de son peuple. Il veut juste vivre avec nous. Il veut juste demeurer avec nous. Il veut juste passer le temps avec nous. Il veut juste que tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on vit, on le vive ensemble. Et je bénis Dieu, on est en petit comité ce matin. Mais comme il a dit Fabien, le Seigneur pose des bases et dans l'esprit, on voit une génération qui se lève. Et ça ne peut pas être autrement. Je le crois vraiment, ça ne peut pas être autrement. Parce que le Seigneur a dit, allez-y et faites de toutes les nations des disciples. Et s'il y a un peuple qui est là ce matin, qui se lève et qui dit, j'y vais, je vais faire de toutes les nations des disciples, alors on fera de toutes les nations des disciples. N'est-ce pas, Olivier? Yes. Il y a une région qui a besoin de Jésus. Et cette région a vraiment besoin de Jésus. Si vous regardez l'ampleur, les choses qui se passent spirituellement dans cette région a vraiment besoin de Jésus. Et si on est là, c'est pour cela. Ce n'est pas juste pour s'entretenir entre nous, c'est important, mais c'est pour que le salut puisse toucher le monde. Parce que tout est une question d'un Dieu qui veut vivre avec sa créature merveilleuse. Amen. Merci à Fabien qui hier était dans les rues de Brignoles et qui a annoncé l'évangile. Il est allé tout seul, comme un guerrier, accompagné de nos prières. Et je pense qu'il a semé quelque chose qui va commencer. Il a semé quelque chose, ça va commencer. Des gens lui ont dit, on croit en Dieu, mais on ne croit pas en l'Église. Ça parle. Quand quelqu'un vous dit, je crois en Dieu, mais je ne crois pas en l'Église, il y a un souci. L'Église est censée être l'épouse du Christ. Donc je ne peux pas croire en Dieu sans croire en son épouse, sans croire en son corps, l'Église, le corps de Christ. Et donc on doit refléter Jésus. Quelque chose va se passer. On a besoin de briser dans cette région-là. Je prends le temps là-dessus, mais on a besoin de briser le mensonge de l'ennemi, les détresses, les problèmes qu'on a eus dans cette région, les déceptions. On a besoin de briser tout cela. Le mensonge de l'ennemi qui retient avec le passé. On a besoin de briser tout cela dans cette région. Parce que Dieu veut être avec sa créature. En fait, c'est une question de... C'est comme un voyage, en fait. Et c'est le thème du message ce matin. Passons de l'autre bord. Ou passons à l'autre bord, comme vous voulez. Mais on utilise le terme. Passons de l'autre bord. En fait, quand on organise un voyage, il y a plusieurs étapes. On a eu l'été il y est encore un peu. Mais certains sont allés en voyage et un voyage, en fait, qu'est-ce qui se passe? Un voyage se décide. On décide à un moment donné de voyager. Il faut une décision, sinon il y a rien qui se passe. On décide, on dit, on aimerait bien voyager, ok. On aimerait bien aller dans un endroit bien précis. Et le voyage ensuite va se préparer. J'ose imaginer qu'on prépare un voyage, on ne se lève pas comme ça pour y aller. Et puis, quand le jour J arrive, on va vivre le voyage. On va traverser les moments du voyage. Pendant qu'on passe d'un endroit A à un endroit B, on va vivre le voyage. Et clairement, il y a un objectif dans le voyage. Le but, c'est quoi? Quand on voyage, c'est qu'on puisse partir vraiment de cet état A à l'état B. Je ne voyage pas pour rester sur place. Sauf si je vais faire du camping dans mon jardin. Mais le voyage a un but et j'ai besoin d'aller jusqu'à l'autre bout. Et je pense que l'idée même du voyage, j'ai eu cette idée-là, c'est notre vie de tous les jours, qu'on soit chrétien ou pas. Et encore plus dans la vie chrétienne, on est tout en train de vivre des moments. Il y a toujours, même quand on est dans une situation difficile, on utilise l'expression « je ne vois pas le bout du tunnel ». En fait, oui, on est dans un tunnel, on veut le traverser et voir l'autre bout. Donc on est dans une traversée, on est dans un voyage. Tout, Tout ressemble à un voyage, en fait. Notre vie chrétienne avec le Seigneur, c'est une marche continuelle. On est dans un voyage. Et dans ce voyage-là, j'aimerais dire ce matin, ce que le Seigneur veut pour nous, c'est passons. Il va conjuguer le verbe passer à la première personne du pluriel. Il va s'inclure là-dedans. Passons. Passons. Il dit pas, vas-y. Passe, vas-y tout seul. Et même quelquefois dans la Bible, quand le Seigneur a dit à ses disciples, allez-y, je vais vous rejoindre, il est venu. Il a marché sur l'eau, il les a rejoints. Il est avec eux, même si je ne le vois pas, on le chante souvent, même si je ne le sens pas, je ne l'entends pas, tu es là, près de moi. Et là, j'aimerais mettre l'emphase, vraiment, le focus sur le terme, passons, passons, passons. C'est avec, c'est vraiment une question d'un Dieu qui veut faire avec. Qui veut passer avec nous, il veut traverser le voyage, il veut traverser la situation, il veut traverser notre combat, il veut traverser notre vie. On a peut-être une promesse qui est arrivée et il y a tout un processus et il veut traverser le processus avec nous. Passons. On va regarder dans Marc 4, 35 à 41, j'ai tiré quasiment le thème de ce passage. Il est dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ce sont les disciples, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» C'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Ici, le Seigneur dit « Passons ». Il a donné l'ordre. En fait, ici, Jésus vient de passer quasiment toute la journée à prêcher sur le bord de la mer. Il est monté dans une barque parce qu'il n'y avait pas de micro à l'époque. Donc la science le prouve aujourd'hui que quand on se met sur l'eau, il y a peut-être, je sais pas, un écho où la voix peut porter vers la plage. Et Jésus qui a créé tout ça, le savait, et il a demandé une barque. Il est monté dans la barque et il a prêché quasiment toute la journée. Il a envoyé des paraboles. Il a prêché. Il a donné énormément de paraboles. On peut le lire depuis le verset 1. Il va parler énormément en paraboles et il va prêcher toute la journée à une foule nombreuse qui était là. Pas si nombreuses que ce matin, mais une foule nombreuse que je vois et qui était là et qui écoutait Jésus. Et puis, normalement, il devait être fatigué, le gars. Il devait être fatigué en fin de journée. Et il dit à ses disciples, passons de l'autre bord. On va aller de l'autre côté. On va voyager. On va traverser. On va quitter cet endroit-là pour X raisons. Mais en tout cas, le voyage est dessiné là. On retrouve les ingrédients du voyage. Il va dire passons. Donc la décision est prise. Le maître va donner l'ordre. J'ai envie de m'arrêter dessus pour dire, est-ce que dans le voyage ou dans une situation ou un objectif ou un projet que je suis en train de mener, c'est un projet où Jésus a dit passons, ou j'ai dit je m'en vais sans lui. Est-ce que je suis, c'est peut-être pour quelqu'un ce matin ou pour quelqu'un qui écoute après, est-ce que je suis dans un projet en ce moment où c'est moi qui ai décidé et que je n'ai pas soumis à Jésus, je n'ai pas soumis à celui qui dit passons et que je suis en train de passer tout seul. Ils vont aller à l'autre bord. Mais en fait, quand Jésus leur dit cela, il ne dit pas que pendant le voyage, ça va être une galère, les amis. Il leur dit pas. Et les disciples, en fait, ne posent pas de questions. Moi, je me dis, le soir, quand même, il a prêché toute la journée, le soir, il dit, traversons. Les disciples auraient pu se plaindre et dire, mais Jésus, attends, le soir, on n'a pas d'outil de navigation. C'était il y a 2000 ans, quand même, hein. Le soir, ils vont traverser la mer sans éclairage. Il n'y avait pas de phare, il n'y avait pas de GPS à l'époque. Ils avaient leurs instruments archaïques, mais vraiment, c'était un risque de traverser la mer le soir. Ils auraient pu dire, Seigneur, on va discuter un peu cet ordre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien dit. Ils ont préparé le voyage. Ils sont allés. On va revenir sur cette discussion. Quelquefois, le Seigneur nous dit, passons. Ils nous ont dit au Seigneur, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois pas que ce n'est pas possible? On va y revenir. L'objectif que Jésus a fixé, c'est d'aller jusque sur l'autre bord, sur l'autre rive. Pas d'autre possibilité. Et il dit, on doit y aller. On doit y aller. Et le but est fixé. Donc, quel est le but que j'ai dans ma vie? Est-ce que dans une situation difficile aujourd'hui, je ne vois même pas le but. Je ne comprends pas ce qui va se passer. En fait, dans la tempête, dans les difficultés, dans les combats, l'objectif, c'est la victoire. C'est passons. Si et seulement si je le fais avec Jésus. Si je conjugue ce verbe-là à la première personne du pluriel, nous, et dans le nous il y a Jésus, je veux passer avec lui. Et quand Jésus me dit passons, quels sont les moyens que je mets en place? Les disciples tout de suite ils ont compris, ok, il faut qu'on voyage. Ils ont pris des barques, Jésus était déjà dans une barque, ils ont réservé cette barque à Jésus, ils en ont pris d'autres et ils ont organisé le passage et ils ont organisé ce voyage. Cela m'interpelle aussi de dire, est-ce que quand le Seigneur me donne une promesse, et on va y revenir, quand le Seigneur m'indique une direction, on va en reparler, est-ce que je croise les bras et je dis, peinard, c'est bon, je me laisse emporter? Ou bien est-ce que je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma part? En général, j'ai une part dans tout ça. Mais ce n'est pas le point principal du message. Le point principal, vous l'avez compris, c'est passons, c'est ensemble, c'est avec lui, c'est l'intimité, c'est être avec Dieu. On peut oublier ce message, si vous voulez, vous oubliez le message, mais gardez ce point essentiel, le passons avec lui. J'aimerais qu'on puisse regarder un texte sur lequel j'ai pris deux points qu'on va prendre en méditation ce matin. C'est le texte d'Exode 14. Là aussi, il y a un voyage. Un voyage, c'est une traversée. Il y a une traversée qui se prépare. Et on va lire ce texte, Exode 14, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent. » Retenez bien ce terme. « Qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal Tsephon. » Bon, c'est des noms. Hein. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à quoi? À faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens, il dit pas les enfants d'Israël, il dit, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Point. Et après la Bible dit, et les enfants d'Israël firent ainsi. Ils ont exécuté. Là, on a un peuple qui a passé plus de 400 ans en esclavage et Dieu n'a pas parlé à ce peuple pendant près de 400 ans. Ils attendaient la délivrance. Ils avaient l'impression que Dieu, leur Dieu, Yahweh, les avait abandonnés. Et Dieu va se révéler à Moïse. Moïse va partir sur l'ordre de l'Éternel pour délivrer le peuple, pour faire sortir le peuple. Et il va dire à Pharaon, l'Éternel demande à ce que tu laisses partir mon peuple pour qu'il m'adore, pour qu'il adore l'Éternel. C'est toujours une question de avec. Il veut de nous. J'ai envie de dire en guillemets, il ne peut pas vivre sans nous. Il veut sa créature qu'il a créée à son image. Il veut tellement vivre avec nous que tous les objectifs, c'est vraiment avec. Qu'ils partent et qu'ils viennent m'adorer. Je veux être avec eux. C'est fou. Et ce peuple va se mettre en marche après les 10 plaies qu'on connaît, que l'Égypte a connues. Et Pharaon va poursuivre le peuple. Et l'Éternel va dire à Israël, à Moïse, de dire à son peuple, détournez-vous. Alors là, ça, je trouve ça quand même hallucinant. En stratégie de fuite, c'est vraiment ce qu'on peut faire de plus, en guillemets, nul, quoi. Détournez-vous, au lieu d'aller tout droit, d'échapper le plus vite possible à l'ennemi. Non, non, vous allez prendre un détour de plusieurs kilomètres, je ne sais pas combien, parce que Joël peut-être peut nous en parler un jour. Vous allez prendre un détour de plusieurs kilomètres, et puis le top, c'est que vous allez aller jusque devant la mer, vous allez vous retrouver dans une embuscade, en fait. Ça, je trouve ça extraordinaire, Seigneur. Le détour de Dieu, c'est extraordinaire. C'est une folie pour nous. Le détour, et c'est mon premier point. Ta traversée peut être un détour de Dieu. Tu peux être dans un voyage aujourd'hui, mais en fait, c'est un détour de Dieu. Quelquefois, le Seigneur nous emmène dans des sentiers, dans des chemins qui, en toute logique humaine, ne sont pas des chemins qu'on prendrait. Ça n'a aucune logique humainement que je reçoive une promesse et que la chose est là et que je dois attendre. C'est pas logique, on se le dit. Et quelquefois, on a envie d'aller droit au but. Et je prie que le Seigneur fasse monter à nos pensées, alors qu'on écoute ce message, que le Seigneur fasse monter à notre esprit des situations dans lesquelles on est en train de refuser le détour de Dieu, alors que lui a décidé ce détour. Pourquoi faire un détour? On se dit souvent, mais pourquoi est-ce que j'attendrai alors que la chose est là, quoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et il y a quelqu'un dans la Bible qui aurait pu avoir aussi cette attitude-là. J'ai pris cet exemple, c'est l'exemple du roi David. L'exemple du roi David, on voit dans 1 Samuel 16, 12 à 13, Isaïe l'envoya chercher. On voyait chercher David. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Le type même de personne qui ne doit pas être roi. En fait, le roi envoie quelqu'un avec des mâchoires serrées, costauds, carrés, un regard de feu, pas un regard mignon. Donc, c'est vraiment pas la personne adaptée. Donc, il arrive. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Folie pour les hommes. Ce n'est pas ce que nous, on aurait choisi. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Retenez bien, à partir de ce jour, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. En fait, ce qui va se passer, c'est que David, il est dit qu'il avait environ entre 12 et 16 ans quand il a été oint de cette sorte. Et la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel l'a saisi ce jour-là pour être roi, en tant que roi. Donc le gars, entre 12 et 16 ans, disons grand maximum 16 ans, il était oint comme roi. Mais regardez ce qui va se passer dans la vie de Samuel, de David. Quand on lit, on regarde dans 2 Samuel, on va voir que David va connaître en fait deux étapes de sa vie. Il va d'abord devenir roi de Juda, et ça, c'est après une quinzaine d'années environ, parce qu'il arrive à 30 ans quand il devient roi de Juda. Et il va régner sur Juda pendant 7 ans avant même de régner sur Israël, avant d'atteindre l'objectif premier. Une vingtaine d'années après. Détour. Et c'était pas de simple détour, parce que la galère, il a connu. Il a dû fuir devant Saül, qui voulait le tuer. Il a connu aussi des succès dans des combats. Il a connu peut-être la gloire aussi, où tout le monde scandait David. Mais il a connu des galères. Et il aurait pu se dire, depuis l'âge de 16 ans ou 12 ans, je sais pas, mais pendant 20 ans, je ne vois pas la promesse de Dieu. Est-ce que je ne pourrais pas prendre un raccourci? Dieu a dit détour. Tu attends 20 ans, tu attends 20 ans. Si tu veux le faire avec lui, si tu veux respecter le passant, alors s'il dit détour, tu prends le détour. Tu fais pas autrement. Et j'ai vraiment envie de vivre cela. Je me dis, Seigneur, quelquefois, il y a des promesses qui sont sur ma vie. Et on reçoit des paroles, le Seigneur te dit, la promesse est là, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui apporte la parole te dit, la promesse est là, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est le tout de suite de Dieu, attention. Hein. Et quelquefois, il y a tout un processus, on le sait, il y a eu plusieurs messages là-dessus, il y a tout un processus de formation, d'abord de confirmation, de formation, et puis d'envoi ensuite. Mais si on veut brûler les étapes, à ce moment-là, on n'est plus dans le passant, on est dans je passe. Et là, tu y vas tout seul. Et j'y vais tout seul. Et on a connu cela. On a connu cela. J'ai noté ceci. Et c'est venu fort dans mon cœur. Quand Dieu dit détour, que dit mon cœur? Mon cœur dit raccourci. Très souvent, c'est le cas. Et quand Dieu me dit raccourci, je dis oula, c'est trop simple. C'est bizarre, ce n'est pas normal. Non, Seigneur, c'est pas possible. Mon frère, on sait de quoi on parle. Il a vécu un témoignage puissant cette semaine. Quand Dieu nous dit raccourci, moi je dis prudence. En fait, on est tout le temps en train de discuter avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'on est ainsi? Mais c'est normal, on est ainsi. Et Dieu le sait tellement qu'il a dit au travers d'Ésaïe 55, 8, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. C'est lui qui le dit, il nous connaît. C'est clair, je ne peux pas faire autrement, ça c'est sûr. Enfin, je peux faire autrement parce que je vais rester dans l'intimité. Et retenez, c'est toujours ça, c'est le fil conducteur du message. C'est le passant, c'est le avec, c'est avec Dieu. C'est là que tout va se passer. Parce que mes pensées ne sont pas ses pensées et que mes voix ne sont pas ses voix. Tout simplement. Quand il dit détour, faut que j'entende le détour, que je discerne le détour, que je sache que ça vienne de lui et que je suive le détour. Parce que dans le détour, il est là. Il n'est pas dans le raccourci. Et quand il dit, ok, maintenant on y va. Si je dis c'est trop simple, Seigneur, j'analyse, je fais le détour, il n'y est plus. Je suis en train de le faire tout seul. Est-ce qu'on peut dire dans le fond de nos cœurs, je choisis de prendre le détour et le raccourci de Dieu. Seigneur, je veux vraiment, je le dis pour moi-même, chaque fois que tu me montres un détour, je veux le prendre. Je ne veux pas discuter tes ordres. Je ne veux pas discuter ta décision du voyage. Je ne veux pas discuter la direction à prendre. Et quand tu me dis, vas-y, c'est le moment, je veux y aller. Je ne veux pas discuter aussi cela. Je veux être simple, en fait, avec toi. Mais tu me diras, on peut se le dire, et je le dis moi-même, comment est-ce que je peux arriver à comprendre, à discerner ce détour de Dieu ou bien le raccourci de Dieu? Parce que c'est facile de dire, quand Dieu dit détour, vas-y, détour ou raccourci, ben vas-y, prends le raccourci. Mais concrètement, vraiment, et je me suis posé cette question, j'ai dit, mais Seigneur, comment je peux discerner, comprendre ce que tu me dis quand je suis dans une situation? Comment? Parce qu'en fait, et Dieu parle, on le sait très bien, on est tous d'accord là-dessus que Dieu parle, tout le monde le sait. On l'a tous un peu vécu et on le voit au travers de la parole de Dieu. Dieu parle énormément. J'ai envie de dire, il est bavard, notre Dieu. Il parle sans arrêt. Il parle, quoi. Et c'est un grand communicant, Dieu. Et quelquefois, il parle dans nos pensées la plupart du temps. Je sais qu'on peut aussi entendre des voix audibles et tout cela. Là n'est pas mon propos, mais le plus souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos pensées, n'est-ce pas? On entend beaucoup de choses dans nos pensées. Dans nos pensées, j'ai noté ceci. Dans nos pensées, on a quelquefois, je le prends ici, trois sources de voix. On a nos propres voix dans nos pensées. Et notre voix, elle est forcément teintée de ce qu'on a vécu, de notre éducation, de nos envies, de notre chair. Les désirs de la chair, ne sont pas celles de l'esprit. Bon, j'ai une information pour chacun de nous. On est dans des corps charnels. Donc, c'est normal. Ça, on le sait. On est dans des corps charnels. Quand il y a l'OM qui joue, j'ai envie de regarder. Je suis cher. C'est normal. Dieu n'est pas contre ça. C'est lui qui nous a créés ainsi. Par contre, il nous donne des principes pour pouvoir être au-dessus de ces pensées-là. Donc, on a un flot de pensées, un flux de pensées. Je ne donnerai pas de pourcentage pour ne pas dire de bêtises. J'ai pas lu d'études là-dessus. Mais on a un flux de pensées qui passent en nous, dans notre tête, dans notre cœur, qui viennent de nous-mêmes et qui sont teintées de nos envies personnelles. Et puis, on a l'ennemi. On a le diable. Quelqu'un dira, mais comment, moi, le diable ne me parle pas, il ne passe pas dans mes pensées au nom de Jésus. Désolé. Allez-y voir pasteur Joël après pour confirmer. Mais Satan s'est présenté devant Dieu parmi les fils de Dieu dans la situation de Job. Donc un possédé peut rentrer dans une église, les amis. Et Satan peut parler. Alors, regardez même ce qui se passe dans, je l'ai noté, c'est dans Matthieu 4. Quand Jésus va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qui va se passer? On parle de Jésus, hein? Dieu, le Fils de Dieu, qui était pleinement Dieu et pleinement homme à ce moment-là. C'est un mystère, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit, notre chair, les faiblesses de notre chair, il le connaissait pleinement, totalement. Il n'était pas pistonné à ce niveau-là, hein? Il le vivait pleinement aussi. Et Satan va aller le tenter quand même. Bon, nous, on est pleinement homme, femme, et pleinement homme, femme. Mais, quand on a reçu Jésus, on est pleinement être humain et pleinement fils de Dieu, connecté avec lui. Et là, on a la victoire sur l'ennemi. Alors, il peut parler, il peut murmurer, il peut envoyer des pensées, il peut les envoyer. Mais nous, si on reste connecté à Jésus, on fera la part des choses. Donc, dans mes pensées, j'ai les miennes. Dans mes pensées, j'ai toutes les propositions de l'ennemi. Et en général, remarquez, Matthieu 4, lisez, on le connaît pour la plupart. Quand il fait des propositions, il n'invente pas d'autres choses, hein. Il ne va pas venir te dire, viens adorer Satan. Non, non, non. Il va te dire, il est écrit que... Il va prendre la parole de Dieu, il va la tourner pour te faire comprendre des choses. Et tu te dis, Dieu m'a parlé, c'est pas possible, j'y vais. Raccourci du diable. Et puis en 3, il y a la voix de Dieu. Et dans tout ce brouillard de communication... Faut que Dieu se fasse entendre, quoi. Je me dis, Seigneur, là, tu as du boulot dans mes pensées. Comment tu fais? Il y a des fois, c'est incroyable, quoi. On se lève le matin, on est dans nos pensées, on a tellement de choses à planifier, on a tellement de choses à faire, et Dieu essaie de placer sa pensée alors que lui, il est plus bavard que n'importe qui. Mais ce que je veux qu'on saisisse, c'est que pour discerner le détour, pour discerner le raccourci. Et Lydie le disait tout à l'heure en prière, il faut qu'on fasse de la place. Il faut lui faire de la place. Il faut lui faire de la place. Je vous dis une chose, on aura toujours nos propres pensées. C'est pas possible. Parce que le matin, quand tu te lèves, c'est pas le Saint-Esprit qui te dit, écoute, je pense que tu dois te laver. Écoute, j'ai une envie de café. C'est pas le Saint-Esprit, ça c'est sûr. C'est nous-mêmes, c'est nos pensées, c'est le flot de nos pensées. Mais c'est de prendre le temps. Et comment faire pour discerner? Comment le faire? Et la réponse se trouve dans le passons. Dans le passons. Jésus a tout dit dans le passons. Je pense que ça suffit simplement. Passons. C'est pas passe, c'est pas j'y vais tout seul. C'est avec. C'est vraiment le désir de Dieu. Son objectif principal, c'est avec. Donc les questions, ça me parle d'intimité. Si je passe plus de temps. Oui, c'est vrai, c'est compliqué, je suis occupé. Jésus le sait, il voit que je suis tellement occupé que dans ma tête, il n'y a que mes pensées, mes envies charnelles qui tournent tout le temps. Et puis, il y a le diable qui vient, qui appuie tout cela, qui va même mettre quelques versets bibliques à l'appui pour me faire croire des choses qui ne sont pas de Dieu. Et je me laisse emporter. Et Dieu est là, il attend un moment pour placer la sienne. Et je ne trouve pas ce moment. Je suis dans une course effrénée du matin au soir. Et quand j'arrive pour me coucher, je dis, oh mince, merci Seigneur pour la journée. Je dors. N'a pas eu le temps de placer sa pensée, l'intimité, juste lui donner un moment. Je sais que je disais, une fois on avait reçu un message et je disais, Seigneur, je n'arrive pas, ma journée est trop chargée, j'arrive pas à trouver du temps pour toi, j'arrive pas à prendre du temps à prier. Je vois des gens qui disent, ils prient 30 minutes, 40 minutes, une heure le matin, mais comment ils font? J'y arrive pas. Et j'étais dans ma voiture et la pensée qui me vient, et celle-là je sais qu'elle est de Dieu, je la discerne ainsi, elle me dit ceci clairement, ce n'est pas le temps, ce n'est pas la quantité de temps, c'est la qualité du temps que tu passes. Si tu prends 5 minutes là dans ta voiture, au lieu d'écouter la radio, au lieu d'écouter d'autres choses, tu mets une musique de louange et que tu dis, tu commences à prier en langue, ça me suffit pour placer ma pensée. Et je peux vous assurer, c'est un témoignage, mais c'est vrai. Depuis que j'ai fait cela, je crois que ceux du groupe de maison le savent, je le répète tout le temps, quand j'étais dans la voiture, j'ai eu cette pensée. Et puis Dieu va confirmer ces pensées-là chaque fois. C'est dingue, j'ai trouvé mon temps. Si tu veux discerner le détour, si tu veux discerner le raccourci de Dieu, au travers du flot de pensées qui te viennent, passe du temps de qualité. De qualité. Un temps de qualité avec lui. J'aimerais ouvrir une partie pour dire que quelquefois on est dans des situations difficiles qui sont pas forcément une décision de Dieu. Dieu n'a pas dit allons-y, passons en galère. On se retrouve dans une galère par nos propres fautes. Ça, il faut qu'on le sache, il y a des choses comme ça qui arrivent. Parce que simplement, j'ai décidé de passer tout seul, en fait. Tout revient à ça, en fait. Ou bien, pour quelqu'un qui écouterait ce message, qui ne connaît pas le Seigneur, c'est je mène ma vie depuis toujours comme je veux, je vis galère sur galère, mais je n'ai jamais essayé de la mener, de la vivre avec Jésus. Ce que j'aimerais dire, c'est que le Seigneur peut changer les situations. C'est-à-dire que dans le détour ou dans le raccourci que tu as voulu prendre et tu te prends des coups, tu peux inviter le Seigneur pour qu'il change le chemin, pour qu'il te remette sur le droit chemin, pour qu'il soit dans ta barque. Et là, il va se réveiller, tu vas le réveiller, il va se réveiller, il va parler à la mer, il va parler à la tempête et la tempête va se taire dans ta vie. Et dans la situation que tu as engagée sans lui, il peut changer les choses. Ce n'est pas perdu. J'aimerais vraiment qu'on capte ça. De ne pas se culpabiliser, de dire « Oh mince, c'est vrai, je me suis lancé dans des choses sans Dieu, j'ai voulu le faire de par moi-même, je mène ma vie depuis toujours sans Dieu, je crois en Dieu mais pas en l'église, je sais pas. Mais là le Seigneur dit, dans la galère, dans ce que tu es en train de vivre, invite-moi et tu vas voir quelque chose va changer. » Ça ne peut pas être autrement, je le crois. Je le crois, ça ne peut pas être autrement. D'ailleurs, le Seigneur le dit dans 2 Chroniques 7, 15. Qu'est-ce qu'il dit? Il le dit pour le peuple, mais ça se ramène à chaque personne, individuellement. Tu peux le personnaliser. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, intimité, on revient à ça, passons, prie, et cherche ma face. Et s'il se détourne, attention, s'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si le nom de Jésus est invoqué sur ta vie, si tu dis « Priez pour moi, Je veux essayer Jésus. Priez pour moi, je veux maintenant l'inviter dans une situation dans laquelle je me suis embarqué sans lui. Si le nom de Jésus est invoqué sur ta vie, si tu acceptes et que tu t'humilies, dans l'humilité, tu pries toi-même. Si tu cherches sa face, si tu te détournes de tes mauvaises voies, toutes les conditions sont là. Alors, l'Éternel va t'exaucer depuis les cieux. Il va pardonner ton péché et il va te guérir. Il va guérir ta famille. Il va guérir ton couple. Excusez-moi. Il va guérir tes enfants. Il va guérir ta vie professionnelle. Il va guérir ton emploi. Il va guérir chaque situation de ta vie. Je guérirai son pays. Quelquefois, quand on est dans des situations difficiles, on a tous cette prière-là. Moi, je suis comme ça, je pense qu'on est tous comme ça. Vous me direz si je suis le seul au monde. Dès qu'une situation difficile se présente, « Ah, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi, Seigneur ? Je suis seul, peut-être ? Je suis seul. » Ouais, on est tous comme ça. C'est l'être humain, en fait. Pourquoi ? Dès que ça arrive, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je pose la question à Dieu, comme si Dieu devait se justifier en permanence. Quelque chose m'arrive, mais Seigneur, pourquoi ça arrive? Ça devrait pas, quoi. Tout devait couler. Je suis tout en train de poser des questions à Dieu. Après, effectivement, la plupart du temps, on se reprend, on se met comme il faut, on prie. Je pense que c'est ce qu'on fait. Mais on a toujours d'abord ce pourquoi-là. Mais sache que le détour que tu vis a un objectif, a un but. Là, quand le Seigneur il donne un détour à son peuple, il y a un objectif, il y a un but. Là, il va le révéler dans Exode 14. Par contre, dans Marc 4, il n'en dit pas un mot. Oui, il dit « allons de l'autre bord ». Mais en fait, il dit pas, il y aura une galère, vous allez voir, je vais me lever, je vais calmer la tempête, je vais calmer la mer. Il dit pas ça. Quelquefois, il le dit, quelquefois, il le dira pas. Il dit, allons-y. Mais avec moi, bien sûr. Si vous me laissez sur le bord, c'est votre problème. Le tout, c'est d'aller avec Dieu. Il y a un objectif. Et même dans la promesse que tu as reçue. Je pense que le Seigneur veut le dire à quelqu'un qui écoute après l'enregistrement ou qui l'écoute maintenant, et même dans la promesse que tu as reçue. Quelquefois on dit, on a reçu des promesses. J'ai mis en parenthèse vraiment, parce que nos pensées, on en a parlé tout à l'heure. En général, il faut éprouver les promesses. Et même dans la promesse que tu as vraiment reçue de Dieu, il y a un but. Le but, c'est pas la promesse elle-même. C'est pas d'aller de l'autre bord, en fait. C'est pas d'aller là dans la situation du peuple d'Israël, c'était pas simplement de prendre plaisir à traverser la mer sans barque et de se retrouver de l'autre côté. Il y avait un autre chemin. Le but, c'est quoi? Et c'est mon second point. Le but, c'est de faire éclater la gloire de Dieu et que, comme le Seigneur le dit, les Égyptiens reconnaissent que je suis l'Éternel. En fait, le but, il est toujours dans le passant, en fait. Dieu, il n'y a pas d'autre chose que ça. Il veut, dans tout ce qu'il fait, dans la promesse qu'il t'a donnée, ce n'est pas que tu aies cette promesse-là, forcément, mais c'est qu'à la recherche de cette promesse, dans le cheminement, tu sois avec lui. Il veut tellement être avec toi que la promesse n'est qu'une étape dans ton voyage. En fait, c'est l'escale, quoi. Si tu t'arrêtes là, tu es foutu. Excusez-moi le terme, mais c'est pas la finalité de Dieu. Tu es en escale. Tu n'es pas arrivé à l'aéroport final. L'autre bord. C'est ce que le Seigneur veut. Et c'est le passant qui est important pour lui. C'est d'être avec moi. C'est d'être avec nous. C'est que je le cherche. C'est pas que je cours après la promesse, mais que je cours après Dieu, le Dieu de la promesse. La promesse va arriver. Et je continue de courir avec lui. Le second point, c'est cela. Ta traversée a pour objectif de faire éclater sa gloire. Et on pourrait même dire, afin que tu le cherches, afin que tu vives intimement avec lui. Et c'est dans le verset 4, il veut faire éclater sa gloire et il le dit à Moïse, je ferai en sorte que les Égyptiens vont faire éclater ma gloire. Voici mon objectif. C'est là mon objectif. J'ai un exemple dans cette partie-là, ou deux exemples très rapidement qu'on va voir. C'est la fournaise ardente. Parlons un peu de ça. La fournaise ardente, on sait, c'est le peuple d'Israël qui est emmené en captivité à Babylone. Et il va avoir Daniel et ses compagnons qui s'appellent, qui auront pris des noms babyloniens, Shadrach, Meshach et Abednego. Je fais attention, hein, parce que là... Et il est dit, on va le lire dans Daniel 3, 28. Je mets directement le focus sur l'objectif atteint. Nébuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Objectif atteint. Il y a des gens à qui on a dit, écoutez, adorez cette statue-là, sinon, vous allez dans le feu. Et ils ont dit, niette, nous on veut vivre avec notre Dieu, on veut demeurer avec lui, et si même il y a du feu, je vais passer avec lui. Et l'image est vraiment parlante. Dans ce feu-là, l'ange de l'Éternel va venir, Dieu va venir, Jésus va être présent avec eux, et il va marcher dans le feu avec eux, il va passer au travers du feu avec eux. C'est pas un feu virtuel, hein, c'est un feu réel là dont on parle. Et le roi va avoir cette vision, Dieu va ouvrir ses yeux, et il va voir l'ange de l'Éternel avec ses trois serviteurs de Dieu. Et l'objectif va être atteint, la gloire de Dieu, et que tout se tourne vers lui. Et là, qu'est-ce qu'il va dire Nebuchadnezzar ? Il va dire, béni soit le Dieu de. J'ai envie de dire, béni soit le Dieu de Timothée. Béni soit le Dieu de Priscilla, d'Olivier. Béni soit le Dieu de. Et c'est ça. Et là, Dieu est content et les anges sont contents dans le ciel. Yes! Objectif atteint. Le roi a reconnu que notre Dieu est l'Éternel des armées. Béni soit le Dieu de. Second exemple, dans Matthieu 11, versets 20 à 24. Jésus ici va faire un reproche à des villes. En fait, Jésus, quand il marchait, on le sait, on l'a lu, et moi, ça m'a interpellé, ce passage. Il faisait des miracles, il faisait des miracles, il faisait des miracles, mais regardez ce qui se passe. On va le lire. Verset 20. Alors, il se mit à faire des reproches, c'est Jésus, aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. La plupart de ces miracles. Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Et c'est quoi la repentance? Je m'humilie, je prie, je cherche sa face, je me détourne de mes mauvaises voies et je viens à lui, je vis avec lui, passons ensemble. Je retourne à l'Éternel, c'est l'objectif. Et Jésus dit au verset 21, malheur à toi, je vais dire les noms, je peux me tromper, hein, je les lis comme ça, parce que Joël corrigera. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. En fait, en clair, Jésus, entre guillemets, le miracle, c'était pas son objectif. Certes, il veut notre bien. Certes, il veut que tu sois guéri. Certes, il veut que tu sois restauré. Certes, il veut faire un miracle dans ta vie. Il veut apporter une provision divine là où il y a des difficultés. Certes, il veut que la promesse qu'il t'a faite, que tu puisses l'atteindre. Mais regardez, c'est fort ce verset 21. Malheur à toi. C'est Jésus qui le dit, hein. À des villes, mais pourquoi? Simplement parce que tu as vu la main de Dieu et tu t'es limité à cela. Tu es resté en escale dans ton port d'escale, dans ton aéroport d'escale, appelez-le comme vous voulez, dans la gare d'escale. Tu n'es pas allé jusqu'au bout. Le jusqu'au bout, c'est d'être avec moi. C'est le passant, c'est la repentance, c'est de me chercher tout le temps.